Sur le Mondial 90, c'est vrai qu'on dit que si vous avez quelque chose à cacher à un Africain ou à un Noir, mettez-le dans un livre. J'ai écrit un livre en 2011, nous sommes en 2020, ce livre s'appelle « Vue de ma cage ». 9 ans après, alors que j'y ai décortiqué 90 de long en large, Hugues me demande encore d'expliquer ici ce qui s'est passé. D'abord, c'est long. Mais ce qu'il faudrait retenir en gros, c'est que en 90, c'est pas comme aujourd'hui. En 90, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes les précurseurs de la démocratie. Donc en 90, personne n'a jamais dit non en Afrique en général, en dehors de Sékou Touré, et personne n'a dit non au Cameroun. Donc il se trouve que en 90, en schématisant, les dirigeants viennent comme d'habitude avec leurs idées sur la prime qu'ils voudront bien nous accorder et nous on en a une autre. Mais pourquoi avons-nous une autre idée? Simplement parce que j'avais considéré que l'équipe telle qu'elle était n'aurait jamais réussi ne serait-ce qu'une performance honorable en Coupe du Monde. Pourquoi? Eh bien parce que la préparation telle qu'elle avait été conçue était chaotique, elle était en Yougoslavie, il n'y avait pas les moyens. Et quand je suis arrivé, je jouais à Bordeaux, j'avais déjà joué à Marseille, donc je connaissais franchement le haut niveau. Et donc j'avais entrepris de motiver mes partenaires en sachant que, contrairement à ce qu'on pense en Afrique, la prime n'est pas déterminante pour bien jouer, c'est l'entraînement qui est déterminant. Donc si vous n'êtes pas bien entraîné, le jour du match, on peut toujours vous proposer toute une maison, une villa, un immeuble, ça ne changera rien à votre performance. Donc si on voulait espérer quelque chose, j'ai donc proposé à mes partenaires d'être disciplinés, de réorganiser un peu l'équipe, les motiver, mais en contrepartie, qu'ils auraient la prime de leur souhait. Donc dans cette réunion, nous sommes arrivés a souhaité une prime qui venait d'eux et pas de moi, et que j'étais chargé de défendre lorsque nous retrouverions nos dirigeants en Italie. Et donc, pour avoir mené cette révolution-là, comme dans toutes les révolutions, et je les avais prévenus, il faut bien qu'on coupe une tête. Ce qui, aujourd'hui, tout le monde a découvert que le football rapporte de l'argent. À cette époque-là, tout le monde pensait que l'État ne fait que dépenser son argent et que le foot était quelque chose d'inutile qui ne rapportait rien. Personne n'était au courant que jouer au foot, ça rapportait de l'argent et que notamment une Coupe du Monde, ça rapportait de l'argent. Donc pour avoir ouvert les yeux, fait en sorte que la haute hiérarchie, c'est-à-dire cette affaire était montée jusqu'au chef de l'État, sache que les joueurs ne sont pas d'accord avec les propositions de primes. Encore une fois, en schématisant, les dirigeants vous font des calculs de primes du début jusqu'à la finale et après croisent les doigts pour que vous soyez éliminés le plus vite parce qu'ils ne ramèneront pas d'argent dans les caisses. Et donc, ils seront gagnants. Or, si vous revendiquez comme nous l'avons fait et que ça arrive au chef de l'État qui dit « mais que veulent ces garçons ?» il finit par dire « je leur accorde ce qu'ils veulent ». En plus, nous allons effectivement très loin. Vous devenez un type qui a réellement, réellement craché dans la soupe. Encore que là, ce n'était pas la mienne, c'était leur soupe. Donc, vous leur avez mis un peu de sable dans le tapioca, comme on dit. Et ils ont donc une dent contre vous. Voilà comment ils ont imposé à l'entraîneur que celui-là, qui est le type par qui leur malheur à eux, les dirigeants, est arrivé, devrait être sanctionné. Mais pour avoir les détails de cette affaire, essayez de vous trouver « Vue de ma cage » écrit par Joseph-Antoine Lel.